que nous sommes de tous les pays d'Europe celui où les jeunes fument le plus de cannabis. L'idéologie héritée de 68, qui a consisté à supprimer l'interdit social sur la drogue, est une catastrophe. La notion même de drogue douce est une absurdité. Si c'est une drogue, elle n'est pas douce.
Tous les lundis à 21h sur Radio Canu.
J'ai de la bonne herbe pour vous. Hein, la meilleure qualité de toute la région.
Cannabis Circus.
Si je suis élu président de la République, je ne légaliserai pas la drogue, je la combattrai.
Radio Canu.
Cannabis Circus.
Cannabis Circus, bonjour à toutes, bonjour à tous, vous êtes bien sur Radio Canus en 2.9 MHz, c'est lundi soir, et comme c'est 21h, et ben c'est Cannabis Circus, l'émission du cirque du collectif d'information et de recherche cannabique, vous êtes bien sur le 102.2 MHz, la plus belle des radios, la plus rebelle des radios, la plus belle aussi,
aussi
d'ailleurs.
Aussi, ben oui.
Ce soir, et ben on va vous parler de chambre, on est encore en mai, on va vous parler, ben... et ça c'est les médias. Ah, ils ont découvert que en France on était le pays le plus répressif et on était le pays où il y avait le plus de conso, dis donc.
Bah, c'est pas trop mal, ils reprennent les propos d'un député, d'un politicien de la France insoumise, Bompard, et ils essaient de savoir si ce qu'il dit est vrai ou pas. Et il s'aperçoit que c'est vrai.
Ouais, c'est bien.
c'est pas très souvent que ça arrive, mais...
Voilà, après on va voir qu'est-ce que c'est la différence entre être THC positif et conduire et sous influence du produit. Voilà, bon, c'est des choses dont on vous parle souvent, mais bon, on va revenir un petit peu là-dessus. On ira faire un tour en Espagne où ils vont faire une légalisation rapide du cannabis, mais plutôt médicale. On ira faire aux États-Unis où là c'est le Minnesota, on en a déjà parlé je crois la semaine dernière, mais ça avance un peu plus. Le Minnesota donc qui devient le 23e état à légaliser aux États-Unis. Donc ils en sont bientôt à la moitié, hein. Et voilà, donc on reviendra 21 ans, 2 onces, ouais, bon bref. Après on viendra sur toujours les États-Unis. 15,5 milliards de dollars de recettes, c'est à peu près ce que la France dépense pour la répression. C'est con, hein. Donc si on légalisait, et ben du coup ça ferait 30 milliards de plus dans les caisses, quoi, un petit peu, parce qu'il faudra ramener au nombre d'habitants. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Le cannabis médical. Donc là, a priori, c'est en France. Peut-être on en avait parlé maintenant qu'on a passé les marchés. On a des gens pour nous approvisionner. Ils ne nous approvisionnent plus gratuitement, mais l'État le paye. Et peut-être que ça va être généralisé et ils attendent entre 100 000 et 300 000 patients. Voilà. Et puis sur la fin, on va parler ou pas, si on a le temps, du HHC. Un nouveau produit plus ou moins de synthèse avec qui a des cannabinoïdes, avec un truc pas très loin du THC. Et enfin, la Thaïlande où le cannabis deviendrait légal aussi là-bas. C'est mieux le cannabis récréatif. Hein.
En Thaïlande?
Ouais, en Thaïlande.
J'avoue que je sais plus tellement, parce que c'était plutôt pour le thérapeutique ou avec du CBD. Et puis là, c'est en train de mal tourner et il semblerait qu'ils veulent tout interdire. De nouveau.
Ah.
Donc, regarde, le cannabis devrait redevenir illégal en Thaïlande.
Ah oui, c'est vrai, revenir illégal. Voilà. D'accord, pardon, je l'ai lu vraiment de travers, comme quoi. C'est vrai qu'on a préparé trop vite cette émission, c'est pas grave. C'est ça les grands week-ends. on a moins de temps que quand on n'est pas en week-end. Voilà, c'est la vie, mais c'est la vie de tout le monde. En tout cas, on est là. Et donc, on va vous parler de cannabis. Et donc là, on va commencer par une petite brève sur le CBD, c'est bien ça?
Oui, des choses auxquelles on s'attend pas, d'ailleurs, parfois, parce que, il se trouve que quand même, il y a des... Alors, ça vient de Thaïlande, justement. Ça sera l'article qui clôturera l'émission si nous avons le temps d'arriver jusque-là. Mais c'est aussi par la Thaïlande que nous commençons. Et il se trouve qu'il y a des scientifiques de l'université Thammasat et de l'institut de recherche Chulalongkorn en Thaïlande qui ont fait des expériences. Ils ont voulu savoir si le CBD pouvait être utilisé comme une solution naturelle pour aider à conserver les fruits frais plus longtemps. Ça paraît assez surprenant, mais bon, quand on est chercheur, bah, on est curieux, hein, visiblement. C'est pour ça que nous ne sommes pas chercheurs, nous ne sommes pas assez curieux, mais en tout cas, il y en a qui le sont plus que nous en ce qui concerne le cannabis et les cannabinoïdes, et là, en plus particulièrement au niveau du CBD. Et donc, cette équipe de chercheurs thaïlandais a combiné un isolat de CBD avec des polymères biodégradables utilisés pour l'administration de médicaments afin de produire des nanoparticules de 400 nanomètres de large. J'aime pas bien les nanoparticules, je vous cache pas, mais bon. Donc, ces nanoparticules ont ensuite été mélangées à de l'eau et à un additif alimentaire, l'alginate de sodium. Ils ont plongé les fraises dans la solution obtenue, puis dans un second bain d'acide ascorbique et de chlorure de calcium, ce qui a transformé l'enrobage en gel. Voilà. Pour tester ensuite les capacités de conservation de l'enrobage, cette équipe de chercheurs a placé les fraises traitées et non traitées dans des récipients en plastique ouverts et les a conservées à des températures, la température du frigo, hein, pendant plusieurs semaines. Et en 15 jours, les fraises traitées au CBD se sont beaucoup moins décomposées que celles qui n'avaient pas été enrobées, conservant leur couleur et leur poids plus longtemps. Voilà. Et les quantités élevées de CBD ont également semblé donner de meilleurs résultats que les fraises qui avaient été enrobées dans des quantités de CBD plus faibles.
D'accord.
Donc voilà.
C'est des choses dont on avait plus ou moins déjà parlé. On savait que le cannabis, dans son ensemble, avait donc des propriétés antioxydantes et antimicrobiennes. On avait vu deux, trois fois dans la littérature ces capacités, ces propriétés arriver. Et donc, a priori, dans les cannabinoïdes qui auraient ces propriétés, ça serait donc plutôt le CBD. C'est surtout ça qu'on apprend. Mais c'est très bien, c'est intéressant. Donc
oui, j'avoue que j'avais un peu oublié tout cet aspect-là. Mais bon, en tout cas, oui, j'avoue que j'ai été un peu étonné. Voilà. En tout cas, le CBD a bien des propriétés, visiblement.
Voilà, ça, a priori, ça calme aussi. Hein. Sinon, ça ne serait pas le cannabis bien-être si ça n'avait aucune propriété.
Oui, enfin là sur la conservation des fruits frais, j'avoue que je l'attendais pas celle-là.
Les gens aiment le foin, mais c'est pas forcément des ânes.
Bon, ok. Oui. Bien.
Allez, on continue. Le vrai du feu ou le cannabis. La France est-elle le pays le plus répressif et le plus consommateur, comme l'affirme Emmanuel Bompard? Donc, il y a député insoumis des Bouches-du-Rhône, comme tu le disais tout à l'heure.
Oui. Alors, un petit article de FranceTV.info qui fait une espèce de fact-checking sur les déclarations, à propos des déclarations de Manuel Bompard, qui a expliqué, qui a fait des déclarations suite à une fusillade à nouveau à Marseille le week-end dernier. Donc il a dit ceci, Monsieur Bompard: je pense que ce débat, il faudra le rouvrir. On a la législation la plus répressive en France et nous sommes aussi dans le pays où on consomme le plus. Il y a un problème. Voilà ce qu'il a déclaré sur CNews.
Mais c'est exact, nous sommes d'accord avec Monsieur Bompard. Et donc le vrai du faux, donc sur France Info, a voulu vérifier ses dires. Et donc c'est exact, la France est le pays d'Europe où l'on fume le plus du cannabis. Et sur la répression, c'est plutôt vrai. On fait partie aussi des pays qui sanctionnent le plus l'usage et la possession du cannabis. Donc voilà. Donc globalement, en France, il y a quasiment une personne sur deux qui a déjà fumé au moins une fois dans sa vie. C'est plus qu'en Espagne ou en Italie. Voilà.
Ouais. Alors merci à FranceTV.info, FranceTV.info de faire ce tout petit article et d'être capable de le dire. Enfin, je sais pas comment dire, parce que on a l'impression que on ne sait plus rien aujourd'hui sur le drogue, le cannabis. Dès qu'on sort des milieux militants, on a l'impression que plus personne ne sait rien ou ne s'intéresse. En tout cas, surtout, enfin, pas les médias, j'allais dire, mais là, bon, en tout cas, voilà, ce coup-ci, il y a eu un journaliste au moins, ou une petite équipe de journalistes qui a souhaité rebondir sur les déclarations de ce politicien et de montrer à quel point justement, ce qu'il disait était juste. Donc merci à Monsieur Bompard aussi une fois d'avoir sorti ça et de voilà.
Tout à fait.
C'est cool.
Et il complète en disant qu'on compte 1,3 million, ça suffit en France,
1,3 million
de consommateurs réguliers, donc une fois par semaine ou une fois par mois, et 850 000 qui fument tous les jours. Donc voilà, ils disent tendance plutôt stable, ça n'empêche pas que depuis les années 2000, je pense qu'on est passé de 500 000 et pour de consommateurs réguliers à ou 700 000, 600 000, 700 000, voilà, ça a augmenté progressivement, mais 850 000 c'est plus que le chiffre que j'avais dans la tête, et 1,3 pareil, c'est voilà, consommateurs réguliers, voilà, ça dépend si on compte voilà, de temps en temps j'ai vu plus, mais c'était des consommateurs annuels qui consommaient une fois par an au moins. Donc voilà, selon exactement les statistiques, ça varie rapidement. Il rappelle quand même cet article que jusqu'en France, on peut être condamné jusqu'à 1 an de prison pour usage de stupéfiants. C'est bien. Il rappelle qu'il y a donc ça peut conduire à une peine de prison et 3 550 € d'amende quand ça passe devant le juge, et que sinon il y a les contraventions de 200 € pour les fumeurs de cannabis la première fois qu'ils se font arrêter, et l'an dernier il y a eu plus de 140 000 amendes qui ont été dressées. Et il rappelle quand même, surtout c'est par rapport aux peines de prison, qu'il y en a très très peu qui vont en prison pour simple usage, mais que cela arrive. Et c'est bien de le rappeler parce que certains ont tendance à l'oublier.
Oui, alors là c'est important, là c'est notre rôle à nous, hein, de dire ce qui n'est pas dans cet article. Et effectivement, si on s'arrête à ça, on se dit oh, bah tout va bien, on va plus mettre en prison des usagers de cannabis. Et une fois de plus, encore une fois, il faut le rappeler, il y a tous les ans en France environ un petit millier de personnes qui finissent en prison pour des affaires de cannabis.
Voilà. Sur 150 000 personnes qui passent en garde à vue.
Voilà. Mais 1000 personnes par an depuis 25 ans, ça fait 25 000 personnes. C'est énormément de monde, en fait. Donc ça, il faut absolument le dire. Donc voilà, il y a ce petit pourcentage, et quand on s'y retrouve dans ce petit pourcentage, ben, ça fait mal, quoi.
Voilà, c'est ça.
Et dernière chose, 140 000 amendes ont été dressées, et la semaine dernière, ou c'était il y a 15 jours, Yann Bizou nous disait qu'en fait, sur ces 140 000 amendes, eh bien, le taux de recouvrement est de 27%. Mmh. Voilà. Donc, ça veut dire que... il y a 73% des gens qui sont condamnés à payer une amende et qui ne la paient jamais, et on n'arrive pas à recouvrer ces sommes. Donc ça ne sert à rien. Voilà, ça ne sert pas à grand chose. Il y en a qui veulent monter cette amende à 15 000 €. Voilà ce qu'il fallait dire et qui n'était pas dans cet article. Allez, on va peut-être s'écouter un peu de musique avant de parler du cannabis au volant et de l'influence, d'être positif, etc.
Ouais, allez, un petit peu de musique.
Allez, à tout de suite.
Ouais.
C'était pas prêt. J'ai été plus vite. Ah si, allez, à tout de suite.
Herbe folle, pas si folle que ça.
Herbe folle, pas si folle que ça.
Tu t'envoles et m'emportes avec toi. Tant pis si je ne reviens pas. Herbe folle, pas si folle que ça.
Herbe folle, pas si folle que ça.
Tu t'envoles et m'emportes avec toi.
Tu t'envoles et m'emportes avec toi.
Dans tes ivresses, dans tes promesses, et tu me laisses tant de joie. Herbe folle, pas si folle que ça.
Herbe folle, pas si folle que ça.
Tu t'envoles et m'emportes avec toi.
T'envoles.
fumes, tu te consumes, et je me brûle un peu les doigts. Herbe folle, pas si folle que ça. Si je n'en reviens pas, herbe folle, pas si folle que ça.
Et oui, voilà, c'était Georges Moustaki, l'herbe folle, voilà, c'est juste pour dire que ça pousse facilement, que, et puis ça me fait penser à une petite anecdote qu'on m'a raconté récemment, des gens qui voulaient faire de l'argent et qui voulaient faire du cannabis avec du THC, qui avaient acheté des bonnes graines au THC, ils avaient les ont bien fait planter, ils ont eu des bons plants, mais seulement leurs plants, ils avaient 0,5% de THC. Et donc invendable et normalement au-dessus des normes autorisées pour être sur le marché légal. Dommage. Allez, bon. Bien. On continue le cannabis. Pourquoi positif ne veut pas dire sous influence ?
Oui, article très intéressant et qui tombe à point nommé, c'est-à-dire juste avant l'été, c'est-à-dire juste avant on retrouve l'époque des concerts, des festivals et des tests salivaires au bord de la route, puisque il y en a toute l'année, hein, il peut y en avoir toute l'année, mais quand on approche du mois de juin, juillet, août, et qu'il y a justement les concerts, les festivals, les free parties et tout ce qu'on veut, eh bien la police nationale sort les tests de dépistage des stupéfiants et notamment les tests salivaires pour dépister la présence du cannabis, du THC et même du THC-COOH dans votre organisme. Tout ça pour vous traîner devant les tribunaux et vous condamner, vous piquer votre permis, votre voiture et vous faire raquer en fait. Et c'est injuste. Et donc c'est très intéressant qu'on puisse savoir en fait c'est quoi en France être sous l'influence et c'est quoi être positif. Et donc le cannabis qui est visiblement assez copain avec le professeur de droit Yann Biziou, qui est un spécialiste du droit de la drogue. Et le cannabis est allé une fois de plus interroger Yann Biziou pour savoir un peu ce qui pouvait nous expliquer sur tout ça. Voilà, donc, c'est très intéressant.
Donc les deux définitions, hein, être c'est sous influence. Donc être sous influence, ça fait référence à l'état psychologique et physiologique d'une personne après avoir consommé du cannabis ou toute autre substance psychoactive. C'est-à-dire que quand on est sous influence, notre système peut être affecté, notre comportement, notre perception, notre coordination motrice, notre concentration peut être affecté par le produit. Donc là, on est sous influence. C'est pour le cannabis 4 heures après avoir consommé un joint, grosso modo.
Voilà, à peu près.
Après, être positif au cannabis, c'est donc au dépistage du cannabis. Et là, c'est totalement différent. Puisque ce qu'on retrouve souvent, c'est pas forcément le THC, mais c'est surtout les métabolites du cannabis.
Et comme le THC-COOH, justement. Et quand on les retrouve dans l'organisme, ça, on est positif, ça veut dire que... Enfin,
ça veut dire qu'on a fumé.
Ça veut bien dire qu'on a fumé.
Ou consommé dans les heures ou les jours précédents.
Voilà. Mais, et ça veut dire aussi qu'on n'est plus sous l'influence, si on trouve que ça.
Ça veut pas forcément dire qu'on est sous influence.
Exactement.
Voilà, donc c'est pour ça qu'il faut faire attention. Et ce qu'on rappelle souvent, hein, et si vous êtes testé, ne faites pas un deuxième test salivaire, faites-vous bien faire un test sanguin. Et devant le juge, et on peut arriver à montrer que c'est du THC-COOH. Et donc que même si vous aviez consommé les jours avant, ce qui est illégal, mais pour conduire, vous n'étiez pas sous influence. Et ça, c'est quand même important, surtout avec les petites choses que certains crétins de députés nous préparent.
Ouais, alors bon, par contre, pour le deuxième test, on n'a pas le choix. Hein. Le premier test salivaire est confirmé par un deuxième test salivaire. Alors après, si on veut faire une contre-expertise, il faut demander à faire un test sanguin, quoi.
Oui, il faut le demander.
Voilà, mais il faut le demander. C'est de votre initiative. Parce qu'il y a énormément de faux positifs, il faut le rappeler.
Oui, tout à fait.
Donc, vous pouvez très bien avoir consommé et faire un deuxième test salivaire qui va tomber faux. Enfin, qui va montrer que vous êtes négatif, et si c'est le cas, bah tant mieux pour vous. Et si le gendarme ou le policier vous dit ah bah c'est négatif, c'est bon, bah alors prenez votre volant et cassez-vous vite en fait. C'est ça. Mais bon, mais si c'est positif et que vous êtes sûr que vous n'avez pas consommé, alors là même depuis plus de 4 jours, demandez sans hésiter un test sanguin. Et puis enfin demandez une contre-expertise en général, même, j'ai envie de dire, hein, c'est quand même toujours mieux. Et cherchez un bon avocat.
Voilà. Je sais pas si tu veux dire d'autres choses sur l'interview, parce qu'il y a le cannabis qui pose plein de questions.
Oui, je sais pas si, oui.
Il y a des choses intéressantes, hein, bien sûr, hein, puisqu'il rappelle, donc le cannabis pose la question, comment est calculé le facteur multiplicateur d'accident par une substance? Voilà, lorsqu'on dit que le cannabis ou l'alcool multiplie les risques par X. Et donc, Ken Bizou rappelle que c'est assez complexe et hors de son champ disciplinaire. Mais ce qu'il faut voir, donc, il s'appuie sur les études de SAM, donc c'est Sécurité Accident Mortel de 2016. Donc, ça date, mais c'était une étude qui a été faite sur tous les accidents mortels. Malheureusement, pas sur les médicaments qu'il ne recherchait pas, mais surtout le reste des...
Je suis étonné qu'il parle de 2016. Hein. SAM, c'est 2005. Je pense qu'il y a une petite erreur.
Il y a peut-être une erreur.
Parce que l'étude qui fait suite et qui valide l'étude de 2005, SAM 2005, c'est une étude de 2011, qui s'appelle César. Bon, bref. En tout cas, il y a quand même des infos qui sont actualisées, j'imagine, même si je n'ai pas les derniers résultats. Mais ce qu'on avait vu en 2005... même un peu après d'ailleurs, c'était que alcool et cannabis multipliés par quasiment 15 le risque de survenue d'un accident mortel, et que la seule consommation de cannabis j'ai oublié mais ça n'atteignait pas 2.
Oui c'était 1,8 ou
voilà 2, c'était voilà. 1,8 ouais.
si la personne était jeune conducteur, elle avait plus de chances que si elle avait fumé. Par contre, si elle avait fait les deux, si elle était jeune conducteur et qu'elle avait fumé, ça multipliait par 4. Et si en plus elle avait bu, et là ça multipliait évidemment ces 4 par 15, et là ça devenait tout de suite très très accidentogène. Voilà, et d'ailleurs dans les derniers accidents, on rappelle que les gens avaient beaucoup bu, et en plus ils avaient pris du cannabis ou de la cocaïne pour un autre cas, ou voilà. Donc
alors attends, voilà,
l'alcool est quand même la principale, quoi, la drogue principale d'accident, la drogue la plus accidentogène.
Alors Yann Bizou dit des choses qui sont extrêmement intéressantes et qu'il faut absolument que vous entendiez. Ça concerne la fin de ce petit paragraphe, et il nous dit ceci. En réalité, la principale limite tient à la loi. Depuis 2003, on ne recherche plus l'influence des stupéfiants sur la conduite, mais seulement le fait d'être consommateur de stupéfiants et conducteur. Si on compare ce résultat à celui du risque alcool, pour lequel on ne retient que les personnes dont la consommation a une influence sur la conduite, on compare des choux et des navets. Et d'un point de vue théorique, ce que les partisans de la répression n'ont pas compris, c'est que mécaniquement, cela fait baisser le ratio de risque pour l'usage de stupéfiants par rapport à la consommation d'alcool. Je ne sais pas si je suis clair, mais en prenant d'un côté tous les usagers de stupéfiants pour calculer le sur-risque, et de l'autre seulement les consommateurs d'alcool dangereux, logiquement les statistiques seront défavorables à l'alcool. La loi a donc deux effets contradictoires. Elle surestime le nombre de consommateurs de stupéfiants impliqués dans des accidents mortels, mais elle sous-estime probablement le risque associé à une conduite sous l'emprise de stupéfiants. Voilà, c'est important, très important. Et ça, je trouve que c'est important quand même qu'on puisse. Enfin, merci à Bijou d'expliquer ça. C'est très bien expliqué. Il dit aussi autre chose, un peu plus loin. Alors, c'est pas tout à fait là.
Il y a différentes questions sur le dépistage et tout.
Alors
ça.
Alors, vas-y, peut-être trouve. Peut-être, toi, tu as des passages que.
Il y a d'autres choses sur le durcissement des peines pour conduite en état positif actuellement qui est à l'ordre du jour. Hein. Donc, à droite et à l'extrême droite, c'est un peu le concours à l'épine de la répression des usagers. Le ministre de l'Intérieur, Darmanin, évidemment, évoque la suppression automatique des 12 points du permis. Une proposition de loi envisage la confiscation du véhicule. Et donc Bijou, il dit la plupart des mesures n'a strictement aucun intérêt. Supprimer 12 points, par exemple, ne va rien changer. En pratique, les policiers peuvent retenir le permis d'une personne dépistée positive et ils le font. Donc, dans la foulée, le préfet peut donner une suspension provisoire du permis jusqu'à la décision du tribunal. Et les préfets le font. Donc voilà, il parle de lois qui existent déjà et c'est quand même assez, assez bizarre.
Ce qui est assez bizarre, c'est que finalement la police fait appliquer en fait les lois à la place de la justice en fait. C'est-à-dire qu'il y a des mesures qui sont prises avant même que la justice décide. Et ça, c'est pas bien normal. Bon, c'est pas normal du tout, d'ailleurs. Hein.
Mais c'est la loi. C'est la même chose pour l'alcool. Hein. Quelqu'un qui consommait à 0,8, plus de 0,8 et qui commet une infraction ou un accident peut se faire retirer immédiatement son permis, hein, avant le jugement. Donc bon, bref. Sinon, juste tous les accidents qu'il y a eu entre cannabis et alcool, d'après Yann Bizou, c'est plus souvent de la propagande que de l'information. Voilà, donc c'est bien de le rappeler, il y a beaucoup de démagogie là-dedans.
Alors justement, bonne question posée par le cannabis, comment protéger les innocents et réprimer justement les conduites dangereuses sous influence?
Tout à fait. Deux mesures prioritaires.
Eh bien, la première, c'est la prévention, et elle est bien plus facile à mettre en œuvre dans le cadre d'une consommation légalisée, comme au Canada ou même aux États-Unis. Par exemple, au Canada, eh bien, ils organisent du phoning. Ils appellent les jeunes conducteurs sur leur portable et leur proposent un entretien sur les risques routiers associés à la consommation de cannabis. Deuxième mesure, c'est d'arrêter avec la politique routière du dépistage. Elle donne une illusion d'objectivité et d'efficacité, mais les tests ne sont pas fiables et ne réduisent pas le risque routier.
C'est juste tout ce qu'on vient de dire avec justement l'influence et le... Et tester positif. Les gens sont testés positifs alors qu'ils ne sont pas sous influence. Voilà, on est dans des bêtises absurdes. Et donc, ce qu'ils conseillent, donc, c'est les tests comportementaux.
Voilà. Et donc, il suffirait de former la police, en fait. Ça présente de nombreux avantages. Un test comportemental permet de savoir tout de suite si la personne est ou non en état de conduire, quelle que soit la cause d'une éventuelle incapacité, maladie, fatigue, alcool, cannabis ou chocolat. Et donc, il faut former les forces de l'ordre qui procèdent aux tests comportementaux. C'est beaucoup plus simple et cela permet de multiplier les contrôles et la sécurité. Et pour terminer, cannabis.
Juste sur les tests comportementaux, donc si les gens ne savent pas, il faut suivre une ligne blanche. C'est mettre son main gauche sur le nez, la main droite, tenir sur un pied. Voilà, c'est les petites choses d'équilibre. Voilà, c'est ça les tests comportementaux. Pour que ça soit clair, et c'est beaucoup plus fiable. Et sinon, pour compléter, pour comparer toujours à l'alcool, quand vous prenez quelqu'un qui ne boit jamais, qui boit juste un verre ou un verre et demi de champagne, par exemple, eh ben, dans la demi-heure après, il est en pleine euphorie, et il pourrait être dangereux au volant, alors qu'il sera en dessous de ses 0,5 grammes d'alcool. Voilà, c'était juste ça que j'ai aussi noté.
Et donc, pour terminer, le cannabiste pose cette question ultime au professeur, qui est celle-là. Professeur, elle leur fait quoi aujourd'hui aux conducteurs reconnus sous influence, la justice? Est-ce qu'elle serait pas un peu trop laxiste? Et Bijou de répondre et de conclure, au contraire, hein, les sanctions sont systématiques et elles sont lourdes. Ce qui m'inquiète, c'est surtout qu'avec les tests salivaires, on peut avoir jusqu'à 20% de faux positifs, donc 20% d'innocents condamnés. Ça fait beaucoup dans une démocratie. Donc, encore une fois, nous insistons, si ça vous arrive de vous faire dépister au bord de la route, test salivaire, n'hésitez pas à demander test sanguin. Voilà. Et si on vous les refuse, Eh ben, formidable! C'est très bien. Vous allez voir un avocat et vous expliquez tout ça à votre avocat, qu'on vous a refusé le test sanguin. Annulation de la procédure, vous êtes relaxé. Voilà. Mmh. C'est comme ça qu'il faut faire. C'est plus facile à dire qu'à faire, je reconnais, par contre. On est bien d'accord. Surtout avec une police comme la nôtre.
N'hésitez pas à vous enregistrer si vous n'arrivez pas à le faire noter au PV, etc. Voilà, c'est... Il faut vraiment des preuves, parce que devant la justice, n'oubliez pas, c'est les preuves qui font foi.
Voilà, et surtout, vous ne restez pas seul dans une telle épreuve. Rapprochez-vous de juristes, d'un avocat, allez consulter une maison de justice et du droit dans votre commune. Allez à la mairie, essayez de retrouver des renseignements ou contactez le cirque. Peut-être qu'éventuellement on peut vous aider si vous n'êtes pas trop loin de chez nous. Si vous êtes en région parisienne, tant mieux, vous trouverez quelqu'un.
Ou l'association des avocats de...
De quoi ?
Il y a une coordination des avocats, c'est les...
Je ne sais pas ce que tu veux me dire.
Le syndicat des avocats.
De France, le SAF, syndicat de la magistrature.
Aussi, voilà. Mais la magistrature, mais voilà, autant aller voir plutôt. Parce qu'en plus, ils sont plutôt bien tournés. Voilà, vous pouvez aller voir aussi la Ligue des droits de l'homme qui a des avocats aussi là-dessus.
Ça peut aussi le faire. Au courant. Voilà. En tout cas, restez pas seul.
C'est ça. Allez, on change de sujet, on va faire un tour d'Espagne.
Oui, on va aller dans des endroits où les choses sont.
On avance sur le cannabis médical. Bon, c'est toujours pas mal. Hein. On voit qu'en France aussi, on avance. On va y revenir. Voilà. Donc, l'Espagne s'oriente vers une légalisation rapide du cannabis médical.
Rapide, je sais pas. Enfin, en tout cas, il s'oriente vers une légalisation. Voilà. Je sais pas si elle est rapide, parce que quand on voit la fessée que s'est pris la gauche espagnole ce week-end. Et la progression des partis populistes de droite, voire l'extrême droite, j'en sais rien si ça va être aussi rapide, mais en tout cas, il semblerait que les forces de progressistes en Espagne, qui étaient encore majoritaires, très majoritaires jusqu'à hier, avaient en tout cas pour projet de légaliser le médical, en tout cas. Je sais pas si ça va peut-être pas être mis un peu en question tout ça depuis aujourd'hui. Je sais pas quoi dire de plus, parce que quand j'ai mis ça dans la revue de presse tout à l'heure et que, en même temps, on voit ce qui s'est passé au niveau des élections.
D'un autre côté, j'ai pas compris sa stratégie non plus. Il se prend une calotte et il dissout l'Assemblée pour se prendre une calotte encore plus grande. Je ne comprends pas. Il y a certains hommes politiques que je comprends pas.
J'avais raté ça, ouais.
On va passer sur l'Espagne.
La méthode Chirac, c'est ça, non?
Aussi.
Méthode Chirac, 1995.
Minnesota, le 23e État américain à légaliser le cannabis.
Oui, ça commence à faire beaucoup aux États-Unis. Ça commence à faire bientôt quasiment la moitié des États, en fait.
Voilà, on n'est pas loin.
On n'est pas loin.
Tout à fait, mais en tout cas, ça fait plus de la moitié de la population, surtout grâce à la Californie.
Ah oui, en effet, oui, t'as raison.
Mais ça ne fait pas la moitié des États.
Californie, Washington DC, New York, oui, ça fait... Oui, c'est clair. Et donc, qu'est-ce qui serait prévu? Eh bien, il serait prévu que les adultes de plus de 21 ans ou plus seraient autorisés à posséder 2 onces, ce qui fait 56 grammes.
En public, hein.
Oui, voilà.
À partager cette quantité entre adultes, avec d'autres adultes, et à conserver 2 livres, c'est-à-dire à peu près 1 kilo, chez soi à la maison. Et à cultiver jusqu'à 8 plants, dont 4 en floraison.
Voilà, bon, il y a pire hein, comme projet.
Non, mais quand on réfléchit, ça commence à être des lois bien pensées. Les législations commencent à être pensées pour ceux qui font au placard, ceux qui font à l'extérieur, voilà.
Les produits à base de cannabis seraient soumis à une taxe de vente au détail de 10%, en plus des taxes de vente locales et de l'État, en question habituelle. Les collectivités locales seraient autorisées à réglementer le détaillant, à limiter le nombre de boutiques, mais elles pourront pas les interdire complètement. Ils disent qu'apparemment les ventes sous licence devraient commencer dans 12 à 18 mois. Voilà. Et alors, on vient de parler de cannabis, de conduite, de dépistage. Celui-là, je l'ai bien aimé. La conduite sous l'influence du cannabis restera illégale. Mais le Minnesota ne dispose pas d'une norme qui rendrait un conducteur automatiquement coupable en raison de la présence de THC dans son sang. Et la loi exige des preuves de l'affaiblissement des facultés. C'est-à-dire que, bon, ben, alors c'est pas nouveau, aux États-Unis, ils sont quand même assez... enfin, la police est formée aux tests comportementaux, justement. Hein. Donc, le taux de THC dans le sang, ça suffit pas. Il va falloir des preuves de l'affaiblissement des facultés. Bon.
Voilà. Et dans les belles choses aussi, dans le projet, donc, il y a une création d'une commission d'examen pour revoir les condamnations des personnes qui ont eu un casier judiciaire pour possession de cannabis dans le passé. Donc, c'est très intéressant.
Magnifique. Ça, j'aime bien.
Voilà, et il rappelle dans les discussions, c'est Lindsay Porte, je sais pas ce qu'elle est, elle est, bon, en tout cas, elle est députée du Minnesota quelque part. Elle dit le système actuel ne fonctionne pas, c'est pour ça la meilleure façon de protéger nos enfants de l'accès au cannabis est de le légaliser et de le réglementer.
Ouais.
Si nos hommes politiques pouvaient l'entendre, ça ferait du bien.
Non seulement ils ne l'entendent pas, mais je suis même pas certain qu'ils s'imaginent que des gens puissent exister et dire de telles choses. J'ai l'impression qu'ils vivent tellement dans leur petit monde à eux, coupés d'à peu près tout ce qui se passe. Bon, ceux d'avant étaient pareils, ceux d'avant elle était également aussi complètement sourd à tout ça, et avant aussi, et encore avant, et avant. Enfin voilà, ça n'en finit pas quoi.
Voilà. Toujours aux États-Unis, les recettes fiscales. Plus de 15 milliards de recettes fiscales.
Ah bah oui, forcément, depuis que c'est légalisé dans certains États, ben, petit à petit, ça fait de plus en plus de recettes fiscales provenant de la vente du cannabis.
Ouais, donc ça ferait pas, mais il me dirait que ça serait sur 15 ans, donc ça serait à peine 1,5 milliard par an. Je trouve que c'est très très peu.
C'est très peu, oui, par rapport à ce que ça pourrait être.
Voilà, parce que surtout quand moi, les calculs qu'on a fait pour la France, avec un taux de THC, quoi, au moins 20% de taxes, voire un peu plus, sans être dans les taxes que prennent les dealers, parce que eux ils prennent beaucoup plus que 50%. Ouais, en tout cas, je pense qu'en France, on serait à 2 milliards par an. Si tout le monde l'achetait, évidemment, dans les magasins adéquats. Mais voilà. À voir. En tout cas, je sais pas. En tout cas, où c'est qu'il me semble qu'il avait dit ça, que ça correspondait à peu près à ce que nous, en France, on dépensait pour faire la répression.
Chaque mois,
non.
Si, je crois que c'est ça. J'ai lu la même chose que toi. Enfin, c'est dans cet esprit-là. Mais on va le retrouver.
Ah, voilà, c'est à la fin.
En gros, les USA récoltent chaque mois en recettes fiscales ce que la France dépense par an. Oui, j'avais inversé.
Bah, c'est encore pire. C'est-à-dire que, mais c'est pas 15 milliards.
Non.
Voilà, donc nous, on dépense par an donc 300 ou 400 000 ou 500 000 euros, et c'est ce que les États-Unis gagnent chaque mois. Et comme après, c'est dans les sacs, dans les taxes, il y a les taxes fédérales, les taxes régionales, les taxes locales, je sais pas trop qui va à qui, mais bon, c'est un peu complexe. Mais en tout cas, voilà, c'est important ces recettes fiscales, ça peut faire beaucoup. Et dans les premiers États qui ont légalisé aux États-Unis, il y a eu beaucoup de travail fait justement sur l'éducation dans les écoles et tout ça. Où il y a des populations paupérisées, où il y a très peu d'enseignants, et là, ils ont pu trouver des enseignants, les payer convenablement, et donc améliorer le niveau scolaire des enfants. Et on sait que quand une école ouvre, bah, c'est une prison qui ferme.
Oui. Autre chose sur cet article?
Sur cet article, non.
Très bien, bah, écoute, on se remet un peu de musique, non? Ou on continue?
Allez, on va continuer. Moi, ça sera encore Moustaki. J'espère que vous m'en voudrez pas.
C'est la soirée Moustaki.
Voilà, j'ai deux chansons de Moustaki. Ça faisait longtemps que je les ai passées. Elles sont plus vieilles que nous. Au moins, ça rappelle que
on a l'air jeune,
le cannabis est utilisé depuis des millénaires dans le monde.
Enfin, Moustaki n'a pas des millénaires, on vous rassure. Allez, à tout de suite.
Tous les lundis à 21h sur...
Il y a des chansons qui reviennent, comme revient le mois de mai. Chansons d'amour vieilles rengaines, où toujours rime avec jamais. Je veux sur la même musique parler du monde d'aujourd'hui, mi souriant, mi nostalgique, conclure en déclarant ceci. Heureusement qu'il y a de l'herbe dans nos villes polluées, et que la nature est superbe quand elle pousse en secret. Et ce n'est pas demain la veille qu'on viendra nous l'arracher. Un peu d'amour et de soleil suffit à la faire repousser. Un peu d'amour et de soleil suffit à la faire repousser. Oui, je voudrais en quelques strophes livrer messages et discours, et être un nouveau philosophe en allant chanter dans les cours. Avec mon piano à bretelles, j'irai de pays en pays, répandre la bonne nouvelle et faire un peu d'écologie. Heureusement qu'il y a de l'herbe dans nos villes polluées, et que la nature est superbe quand elle pousse en secret. Et ce n'est pas demain la veille qu'on viendra nous l'arracher. Un peu d'amour et de soleil suffit à la faire repousser. Un peu d'amour et de soleil suffit à la faire repousser. Et si par malheur je m'essouffle à vouloir tout dire en chantant, je me mettrai dans mes pantoufles, je m'arrêterai quelque temps. Mais comme revient l'hirondelle un jour à la belle saison, je reviendrai à tire-d'aile célébrer pelouse et gazon. Heureusement qu'il y a de l'herbe dans nos villes polluées, et que la nature est superbe quand elle pousse en secret. Et ce n'est pas demain la veille qu'on viendra nous l'arracher. Un peu d'amour et de soleil suffit à la faire repousser. Un peu d'amour et de soleil suffit à la faire repousser.
Aïe. Ouais, ouais, c'était Moustati. Heureusement qu'il y a de l'herbe hein, dans nos boulets pollués. Heureusement que ça pousse de partout entre les pavés. C'est important.
Bon, allez. Dernière ligne droite pour arriver jusqu'au terme de cette émission. Un gros article dans actu.fr. Je ne vous cache pas que j'ai été très surpris de voir un article aussi important dans ce média qui fait souvent des articles tout petits, mais... Enfin, en tout cas, là, ils ont fait un article assez complet. Alors, bon, rien de nouveau. Hein, ça parle du cannabis médical et la question va-t-il bientôt se généraliser en France. Alors, ils sont allés voir, je trouve, quand même les bonnes personnes. Enfin, ils sont allés voir Nicolas Autier. Hein, c'est un peu le coordinateur de l'expérimentation. En France, c'est un sujet dont on a déjà parlé le mois dernier ou il y a deux mois, je crois.
Voilà, pour rappel, Nicolas Autier est un chef de service pharmacologique médical du CHU de Clermont, et c'est surtout, il appartient aussi à la DGS. à la Direction Générale de la Santé.
Ah non, il n'appartient pas à la DGS. Il est chef du service pharmacologie médicale de CHU de Clermont. Et dans cet article, il parle effectivement de l'implication depuis peu de la DGS,
là-dedans,
qui est rentrée dans le jeu. Et c'est une très bonne chose que la DGS soit rentrée dans tout ça, et que c'est grâce à la DGS si à un moment ça va pouvoir avancer un petit peu mieux. Alors je dis pas plus vite, mais en tout cas ça va avancer, je dirais.
Voilà. Donc la semaine dernière, on vous disait que les marchés avaient été passés et qu'on avait de nouveau des gens qui fournissaient pour les malades, pour les quelques malades qui ont été acceptés dans l'expérimentation actuelle. Et donc là, d'après cet article, ça devrait se généraliser, ce cannabis médical en France, et ça pourrait toucher à terme 300 à 600 000 personnes.
Si ça pouvait, oui.
Parce qu'il y a, non, de 100 à 300 000, pardon. Ouais, 100 voilà. à 300 000, j'exagère un petit peu, excusez-moi. Voilà. Donc, pour rappel, l'expérimentation, il y avait 5 indications thérapeutiques, les douleurs neuropathiques réfractaires, les effets indirects à la chimiothérapie, comme les nausées ou la perte d'appétit, l'épilepsie réfractaire, les soins palliatifs ou la sclérose en plaques. Voilà. Donc, on n'est pas plus bête qu'un autre pays, disent-ils. C'est bien, oui, on est quand même un petit peu plus lent.
On n'est pas plus bête, on est surtout miné par des responsables politiques qui sont complètement nuls sur le sujet. Enfin, je veux dire, il faut le dire. Et puis, pas depuis Macron, Darmanin, non. C'est, ça fait des décennies que ça dure. C'est ça le problème, quoi.
Oui, tout à fait. Ça, c'est sûr qu'on a une France réactionnaire assez forte. On l'avait vu. Au moment du mariage homosexuel.
Mariage
pour tous et tout ça. Et tous les mouvements qu'on a connus. Bref, en tout cas, c'est bien que le cannabis médical avance et reprenne. On sait que ça peut changer la vie, y compris des enfants. Donc c'est bien de le dire et de le rappeler. Donc l'article est assez bien fait. Il parle des cannabinoïdes. Donc, il rappelle qu'il y en a de près de 500. Je pense qu'il là, ils exagèrent un peu. Peut-être qu'en constant, en plus des cannabinoïdes, les terpènes et plein de toutes choses, on peut peut-être y arriver. Mais bon, je crois que dans les cannabinoïdes, on était plutôt dans 150 ou. Et voilà, plus les terpènes.
En tout cas, les infos sont disponibles sur le site du ministère de la Santé. Il suffirait que même le ministre de la Santé lui-même lise ces informations-là pour que ça le fasse. Pour que ça l'informe. Parce que.
C'est pas des scientifiques, c'est des politiques.
Et oui,
politiques
bien sûr.
Ils cherchent qu'une seule chose, c'est avoir le pouvoir.
Exactement.
Ce qui regarde, ce n'est pas les études scientifiques, c'est les sondages sur les Français et sur le nombre de voix que ça peut leur rapporter.
Merci pour ce rappel judicieux.
Voilà. Donc, sinon, voilà, et les cannabines, noïdes, donc ils parlent souvent du THC et du CBD, et ils pourraient parler aussi du CBN, du CBG et de tout ça. Voilà, donc il rappelle, il parle des doses efficaces, il parle un peu des forces. Je sais pas si tu veux dire d'autres choses sur cet article que j'ai lu très rapidement, moi, personnellement.
Je renvoie les auditeurs et auditrices à notre page Facebook pour retrouver cet article et le lire à tête reposée, puisqu'il est quand même très très long, il est plus de 3 pages.
Voilà, donc il parle des fournisseurs étrangers, hein, donc on sait, c'est des grosses entreprises multinationales qui viennent des États-Unis, Israël, Canada. Voilà, je crois d'ailleurs que c'est des boîtes de ces pays-là qui ont été choisies actuellement. Vas-y, je t'en prie.
Non,
je disais, l'article allait aussi poser la création des filières françaises. Je sais pas si t'étais là-dessus.
Oui, pourquoi pas, ce serait pas mal qu'on parle de ça, ouais. Effectivement.
Donc, il va falloir du temps, 2-3 ans, mais bon, ils y travaillent. Il y a des gens, on sait qu'il y a des. On en a parlé à plusieurs reprises, hein. Il y a des maires ou des gens sur des conseils généraux qui ont demandé que leur pays, comme la Lozère, par exemple, soit dans les pays tests, parce que le cannabis a quand même la propriété de pouvoir pousser dans des terres assez arides, et assez pauvres. C'est pour ça que ça pousse très bien dans le RIF et que pas grand-chose d'autre ne pousse dans le RIF. Et il faut du soleil aussi. Bon, alors si vous émettez des engrais et de l'eau, ça pousse d'autant mieux. Hein. Ne nous leurrons pas. Donc, une filière française, peut-être, un jour.
Ça serait pas mal, hein, si ça pouvait arriver. Pourquoi pas. On verra, hein, on verra, vu que le temps que ça prend... voilà. Alors, Aurélien Bernard de Newsweed a été consulté et se prononce dans cet article. Il dit, hein, et je suis tout à fait d'accord avec lui, hein, il dit, tant qu'il n'y aura pas de cadre réglementaire clairement identifiable, eh bien les investisseurs seront frileux. Eh ben oui, forcément, lâcher 10 millions d'euros alors qu'on ne sait pas s'il y aura un circuit de distribution, ça serait un peu cavalier. Le marché sera d'abord ouvert aux opérateurs étrangers parce qu'ils ont l'expérience et les capitaux. Ouais, c'est problématique. Xavier Saïs, secrétaire du syndicat des professionnels du chanvre, regarde, lui, avec inquiétude, et il a bien raison, et on le comprend, il regarde avec inquiétude les entreprises étrangères passer devant les structures françaises. Bah oui, c'est ça le problème, c'est qu'effectivement, on fait une expérimentation, on n'a pas de filière légale, ceux qui voudraient la mettre en place, bah, vu la situation, finalement, bah, on leur met un peu, c'est comme si on leur mettait des bâtons dans les roues, hein. Et donc, il dit, Xavier Saïs, il rajoute, il doute donc que les producteurs français puissent avoir les reins assez solides pour respecter toutes les normes de sécurisation et de qualité. Est-ce qu'ils vont avoir les moyens d'investir 1 ou 2 millions d'euros pour répondre à des appels d'offres comme ceci? Surtout si en plus ils savent pas de quoi l'avenir va être fait et si la porte est fermée, quoi. Bah, les entreprises étrangères, elles ont de l'avance et elles peuvent déjà s'appuyer sur des marchés existants. Elles sont capées pour, et oui. Donc, il demande, Xavier Saïs, un allègement des contraintes pour permettre à davantage d'entreprises françaises de se lancer. Et si c'était le cas, il y aurait 5 entreprises, hein, comme tu disais, au minimum, qui pourraient fournir les produits avec un suivi de traçabilité. C'est frustrant, en effet.
Voilà, donc en tout cas, les syndicats du champ, ben, ils poussent, hein, parce qu'on en fait déjà pousser, donc... Même pas pour le CBD, mais juste pour la fibre, ou pour les graines, ou pour, voilà, parce qu'il y a quand même une filière chanvre en France, il faut le rappeler. Elle pourrait se développer donc qu'avec le CBN. Encore faut-il que, voilà, il faudrait qu'on arrive à résoudre ces problèmes de moins de, parce que pour faire du CBN, souvent, il y a un petit peu de CBD, de THC aussi. Et le moins de 0,3% européen est vraiment absurde, réduit considérablement le nombre de plants qui peuvent être poussés et surtout la qualité des plants, hein, parce que bon, voilà. Et sinon, voilà, le tout, hein, si vous avez du CBN avec 0,3% de THC et vous en prenez, vous en mettez 2 grammes dans un joint, donc c'est un gros joint. Et d'un autre côté, vous avez du THC avec 0,5% de THC, du CBN avec 0,5% de THC. Et si vous en mettez qu'un gramme dans votre joint, eh ben, le deuxième vous défoncera moins et vous aurez moins de THC dans le sang qu'avec le premier. Donc, voilà. En plus de la quantité de THC dans le produit, il faut aussi la dose que l'on prend. Donc, voilà. Les choses sont souvent un peu absurdes et c'est vrai que la législation demanderait à évoluer. Ça, c'est sûr, ça fait qu'il faut 30 ans qu'on le dit. Et je pense qu'on va encore le dire quelques années.
Ouais, juste, je sais pas si tu l'as dit, j'ai pas entendu, je sais qu'il y a quand même une start-up française qui est sur les rangs, hein, qui est D'accord. sur les rails, c'est Overseed. Voilà, une. Bon, ça fait pas beaucoup, mais il y en a quand même une et j'espère qu'elle pourra un jour faire ce qu'il faut. Pour terminer, donc Autier rappelle qu'il y a beaucoup de réticence encore de la part des médecins et des scientifiques qui n'échappent pas à des positions dogmatiques et qui ont du mal à prendre du recul, dit-il. Et il termine donc cet article en disant on n'est pas du tout en train de passer par la petite porte pour légaliser le cannabis en France. L'un ne fera pas le marchepied de l'autre. Est-ce que quand on a donné accès à la morphine, on a légalisé l'héroïne? Est-ce que quand on a donné accès à la poudre d'opium, on a légalisé l'usage de l'opium? Il n'y a aucun lien, d'après lui.
Oui, si, il y en a ou il n'y en a pas. Voilà, moi, je serais pour légaliser les plantes et interdire les produits les produits trop concentrés. Voilà, c'est comme pour l'alcool, tout était légal, sauf l'absinthe à plus de 90 degrés. Celle-là est même à 70 degrés, elle est toujours interdite. Maintenant, on a réautorisé l'absinthe à 40 degrés, je crois, en France, ou 45, avec un certain taux de tuyol, c'est pareil, c'est la substance active dedans. Donc voilà, est-ce qu'il faut mettre aussi des limites dans les produits dérivés, les doses, voilà, mais c'est vrai que ce qui est important, c'est de savoir ce qu'on consomme, c'est d'acheter un produit avec marqué dedans, bah, il y a tant de pourcents de THT, tant de pourcents de CBD, tant de pourcents de CBN, tant de pourcents de ci, tant de pourcents de ça, il est concentré comme ça, et voilà. Et donc faites attention, ou alors vous pouvez y aller, vous avez que du CBN, et ça va juste vous détendre, et ça n'affectera pas vos capacités psychiques. Autre chose à dire ?
Non, non, bien.
Tu veux dire un truc sur le HHC ?
Pas spécialement. Voilà, je vous renvoie à la lecture de cet article, un article du Cannabiste. Donc, si vous allez sur le site du Cannabiste, vous retrouverez l'article, ou vous pourrez le trouver également sur la page Facebook du cirque. Voilà, c'est le point de vue d'une personne, en fait, qui n'aime pas le HHC, qui s'appelle Daniel Decker. Voilà. Qui produit lui-même son cannabis, son CBD, etc. Et lui, il n'aime pas du tout le HHC. Dans un article précédent...
Moi, étant pour le naturel et même pour l'herbe extérieure, même si elle est moins forte que l'herbe intérieure, je serais assez d'accord avec lui, puisque le HHC étant un cannabis de synthèse, a priori, je ne suis pas très favorable à ces petits produits-là.
Bref, en tout cas, ça fait pas les mêmes effets sur toutes les personnes. On a vu la semaine dernière, il y a 15 jours, que certaines personnes disaient que c'était assez comparable avec du cannabis. D'autres disaient que c'était beaucoup plus fort. Lui, il a pas du tout aimé. Il a essayé. Il trouve que ça fait mal à la tête, que c'est pas très intéressant. Bon, bref.
Voilà, moi, tous les cannabis.
On en reparlera.
Tous les cannabis de synthèse, surtout depuis qu'il y a eu quand même quelques décès.
Oui, certes, mais là, c'est pas la même chose. Quand même.
C'est pas la même chose. Ça n'empêche pas que dans le. Il y a aussi eu récemment une alerte sur l'héroïne.
Avec deux cannabinoïdes de synthèse dedans. Oui.
Voilà, aussi. Donc, c'est pour ça que moi,
faire
tous les trucs de synthèse, je dis, voilà, faites gaffe. Voilà, les produits purs, au moins, on les reconnaît, voilà. On sait ce qu'il y a dedans, une poudre.
Mais je pense que.
Ou même un shit, c'est déjà plus compliqué.
Je pense que ce qu'il faut qu'on puisse dire, nous, pour être objectif, c'est qu'on connaît très mal le dossier. Voilà. On peut le dire aussi, on connaît très mal le dossier du HHC. Il faut quand même qu'on en sache un peu plus. À ce sujet, avant de dire des choses exactes ou de dire des conneries. Voilà.
Voilà. Sinon, le 18 juin se rapproche, donc je vous rappelle qu'à Lyon, il n'y a rien.
Non, il y aura un 18 juin à Poitiers, à partir de 18h, et on attend de savoir s'il va y avoir un 18 juin à Paris, mais c'est pas possible.
Sans doute au parc de la Villette.
Voilà.
Voilà, nous, il aurait fallu qu'on fasse quelque chose, mais voilà, nos forces sont limitées.
Très, très limitées. Voilà. Allez, on reparlera peut-être de la Thaïlande la semaine prochaine, mais en tout cas, c'est en passe de redevenir illégal. Pareil, hein, si vous voulez lire l'article, je vous invite à vous rendre sur le site la page Facebook du Cirque Lyon et du Cirque également, et vous trouverez tous les articles dont on a parlé ce soir.
Et y compris l'usage médical du cannabis serait illégal.
Ouais, donc on verra ça. Allez, à la semaine prochaine.